Côté température cet après-midi, 12 à Rodez, 15 à Quimper, Clermont-Ferrand et Biarritz, 19 degrés à Paris, Lille et Besançon et 26 la maximale pour Ajaccio.
Allez, bon courage à toutes et tous. Bonne journée sur Europe 1. Bon réveil à vous en ce lundi 29 avril, il est 7h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, Châteauroux sous le choc ce matin après la mort brutale d'un adolescent de 15 ans mortellement poignardé par un jeune Afghan du même âge. Celui-ci est en garde à vue, on va vous raconter. La violence entre jeunes, la violence contre les policiers également à Givor près de Lyon. Des renforts ont été envoyés sur place pour ramener le calme après plusieurs incidents sur fond de représailles anti-police. Explication à suivre. Dans ce journal également, les manifestations pro-palestiniennes débordent les facs américaines et vont même jusqu'à perturber un dîner officiel à la Maison Blanche. Et puis nous parlerons du Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 pour la 12e fois de son histoire. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Châteauroux toujours sidéré ce matin, deux jours après la mort d'un adolescent de 15 ans, poignardé au cours d'une bagarre. Son agresseur présumé, un jeune du même âge, d'origine afghane. Il est toujours en garde à vue ce matin, ainsi que sa mère. Il n'est pas tout à fait inconnu des services de police. Christophe Bordet, que sait-on exactement de cette affaire à l'heure qu'il est?
Alors écoutez, les premiers éléments de l'enquête évoquent une bagarre entre deux adolescents qui a donc tourné au drame, des coups de couteau assénés semble-t-il par un jeune afghan sur sa victime touchée à plusieurs reprises au niveau du thorax. Mathis, apprenti cuisinier âgé de 15 ans, fils d'un restaurateur bien connu à Châteauroux. La mère du meurtrier en situation régulière serait également soupçonnée d'être impliquée dans ce drame et tous les deux viennent de passer la nuit en garde à vue. L'auteur des faits, déjà connu de la justice, mis en examen le 22 avril, quelques jours seulement avant le drame de samedi soir, suite à un guet-apens tendu sur Internet avec vol de portable sous la menace d'un couteau, placé sous contrôle judiciaire, seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, et alors mise en examen pour des faits de nature correctionnelle, dit cite la procureure de la République de Châteauroux. Pour faire simple, le jeune Afghan avait été laissé en liberté, le juge ayant retenu l'excuse de minorité qui ne peut être levée qu'au-delà de l'âge de 16 ans. Déjà en février dernier, l'adolescent avait fait parler de lui dans une autre affaire de vol en réunion, là encore pour un portable, sur un homme de 22 ans, cette fois dans un parc de Châteauroux.
Christophe Bordet en direct pour les derniers éléments de cette enquête. Ce fait divers tragique alimentera sans doute les conversations à Matignon. La violence chez les jeunes, c'est justement sur ce thème que Gabriel Attal recevra les chefs de partis politiques en fin de journée. Premier volet d'une série de consultations, concertations pour endiguer le phénomène.
La violence ce week-end également à Givors, près de Lyon. Les policiers municipaux ont été pris pour cible.
Un week-end très agité et renforts policiers dépêchés sur place pour ramener le calme. Samedi soir, des jeunes ont affronté les policiers après leur avoir, semble-t-il, tendu un piège en centre-ville. Ils auraient voulu venger l'interpellation de quatre mineurs dans une affaire d'agression. Expédition punitive qui s'est achevée devant une annexe de la mairie. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon.
Dans la cour intérieure de la mairie, deux voitures de la police municipale réduites en cendres et la façade de l'un des bâtiments noircie par la fumée. Des carcasses laissées sur place depuis samedi quand une trentaine de jeunes cagoulés auraient mis le feu à ce parking fermé. Des incidents qui n'étonnent pas les habitants habitués aux dégradations.
Ras-le-bol, oui. Je travaille, mes camions ils sont tout le temps esquintés, moi. Tagués, crevés les pneus à cause de mes camions. J'ai trouvé aucune assurance.
Ces violences seraient des représailles. Quelques heures plus tôt, cinq mineurs âgés de 12 à 17 ans suspectés d'avoir agressé un autre mineur âgé de 14 ans était interpellé. Alain Barberis est le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Rhône.
L'enquête démontrera ce qui s'est passé et pourquoi du comment, le mobile. Givors, c'est pas la première fois que nos collègues font l'objet des tirs de mortier, de guet-apens. Ça arrive malheureusement très souvent.
Face à cette montée de violence chez les jeunes, le syndicat Alliance Police Nationale demande des moyens supplémentaires, plus d'effectifs sur le terrain, des enquêteurs, mais aussi une réponse pénale à la hauteur des faits reprochés. Givors, Noémie Loisel, Europe.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04.
C'est une certitude. À présent, l'État va voler au secours d'Atos.
Le géant français de l'informatique, très endetté, a un besoin urgent d'argent frais. Bercy a déposé une offre pour reprendre les activités les plus stratégiques de l'entreprise et éviter qu'elle ne file à l'étranger. Annonce du ministre de l'Économie hier soir.
À propos d'argent, il en sera question d'argent public à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, va devoir défendre la trajectoire budgétaire de la France et les objectifs du gouvernement. Ramener le déficit public de 5,1% prévision pour cette année, à moins de 3% en 2027. Effort colossal auquel pas grand monde ne croit, Barthélémy Philippe, ce pari passe toutefois par des économies drastiques.
Oui, après avoir gelé 10 milliards d'euros de crédit ministériel en février, Bercy doit dégager 10 milliards de plus d'ici la fin de l'année pour tenir sa trajectoire budgétaire. Conséquence, les ministères vont à nouveau être mis à contribution, explique Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des Finances.
Il a été demandé à l'ensemble des ministères de geler une partie de leurs dépenses.
Avec ce nouveau coup de rabot, Bercy compte déjà récolter 5 milliards d'euros, mais cette fois, les collectivités territoriales doivent aussi contribuer à l'effort.
Vous avez une demande qui est faite aux collectivités territoriales de réduire la croissance de leurs dépenses à hauteur de 2,5 milliards. Leurs dépenses, c'est à peu près 300 milliards par an.
Enfin, la dernière tranche d'économie de 2,5 milliards d'euros doit être identifiée d'ici fin juin par la mission parlementaire sur la taxation des rentes. La piste la plus chaude, c'est le durcissement de la taxe sur les super-profits des énergéticiens. Elle a rapporté seulement 300 millions d'euros en 2023, alors que l'État en attendait 3 milliards.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
L'actualité nous emmène également ce matin aux États-Unis avec ce dîner très officiel à la Maison-Blanche, perturbé par des activistes de la cause palestinienne.
Jusque-là, le mouvement se limitait aux facultés, y compris les plus prestigieuses. Intervention de la police pour mettre fin au blocus, des centaines de personnes arrêtées, il n'empêche. Plusieurs facs ont annulé la remise de diplômes. Manifestation qui s'invite désormais dans la campagne pour la présidentielle de novembre, le très officiel dîner des correspondants. Réception organisée à la Maison-Blanche pour les journalistes a été la cible des manifestants. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
L'événement mondain de l'année à Washington n'a pas été épargné. Les invités du dîner de la presse présidentielle ont été conspués au cri de « honte à vous ». Les mouvements de protestation qui ont commencé à New York et dans d'autres des universités de la côte Est avaient pour but initial d'exiger que ces établissements extrêmement fortunés n'investissent plus leurs fonds dans des sociétés liées à Israël. On a assisté à une dérive avec l'apparition de slogans favorables au Hamas ou à sa branche armée et à l'intimidation d'étudiants et de professeurs juifs. Cela suscite un débat national sur la liberté d'expression et met Joe Biden dans une position inconfortable vis-à-vis de l'aile gauche de son parti, indigné par les interventions policières. À 6 mois de l'élection présidentielle, le Parti démocrate craint les répercussions sur le vote de la population musulmane, mais plus encore sur la frange jeune de l'électorat. La grande crainte est de voir l'histoire se répéter lors de la convention démocrate qui se tiendra en août à Chicago, la ville où en 1968 la convention du même parti avait été marquée par une semaine d'émeutes.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La crise au Proche-Orient sur le terrain diplomatique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Arabie Saoudite. Première étape d'une tournée visant à obtenir une trêve entre Israël et le Hamas. Et à ce propos, une délégation de l'organisation terroriste est attendue aujourd'hui au Caire. Elle doit se prononcer sur un accord de cessez-le-feu.
Allez, le football, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire.
Et sacré par le Roi Lion, vainqueur 3-2 de Monaco hier soir. Le dauphin du PSG au classement. À 3 journées de la fin, Paris ne peut plus être rattrapé au classement. 12e titre de champion qui doit beaucoup aux joueurs, mais aussi à un homme, Luis Enrique, l'entraîneur, Cédric Chasseur.
Oui, même s'il ne faut pas oublier les débuts timides de Luis Enrique sur le banc parisien, critiqué lors de ses premiers mois à la tête du PSG pour son jeu de possession ennuyeux et ses choix de faire tourner régulièrement, quitte à mettre ses cadres sur le banc. Les résultats lui donnent raison aujourd'hui et le consultant européen Alain Giresse salue son travail sur le banc parisien.
Il a créé une équipe, un ensemble, et ils ont une grande solidarité entre eux. On voit qu'il n'y a pas de hiatus sur le terrain entre les joueurs, dans la dynamique qu'ils peuvent amener à l'équipe, oui, je crois qu'il n'a pas prétendu su maîtriser ce groupe.
Luis Enrique qui a finalement réussi à se mettre les supporters dans la poche, à l'image de Frédéric.
Il y a un très bon entraîneur. Bon, il y a des fois, il nous fait des trucs un peu bizarres, mais quand même, on va aller en demi-finale. Donc.
Ou d'Aurélien, autre fan du club de la capitale.
On ne peut pas être plus fier que ce qui se passe en ce moment. On a franchement tous la conviction qu'on va remporter la Ligue des Champions cette année, à 300%.
Épreuve de l'engouement, ils seront 4000 Parisiens mercredi à faire le déplacement à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des Champions.
Et le Borussia Dortmund qui reste sur une sévère défaite ce week-end, 4-1. face au RB Leipzig. Donc les étoiles seraient peut-être en train de s'aligner pour les Parisiens.
Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Éco.
Avec Nicolas Bouzou, en cet avant-dernier jour du premier trimestre, on va se pencher sur les résultats des entreprises du CAC 40. Qu'est-ce qu'elles nous disent de la santé de l'économie française? On va voir ça avec Nicolas dans 10 minutes, juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin. Dans un instant, le docteur Auslander. On va parler avec elle des violences sexuelles et sexistes à l'hôpital, MeToo à l'hôpital. C'est en train d'éclater. On voit ça dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe 1 Matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça chipote pas là.
Ça chipote pas là où?
Chez Lidl, en ce moment, les 6 chipolatas sont à 2,49€ les 330 grammes au lieu de 3,49€, moins 28%.
2,49€ les 6 chipolatas.
Et c'est du porc français, hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,55€ le kilo, transformé en France, offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Valérie Auslander.
Bonjour Valérie Auslander.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Pas un jour depuis maintenant 3 semaines sans qu'un soignant, une infirmière, un grand médecin ne révèle avoir subi du harcèlement, des attouchements, des remarques graveleuses durant ses études ou sur son lieu de travail. La vague MeToo est en train de déferler sur l'hôpital. Alors avant de vous écouter, docteur Auslander, un témoignage pour commencer. C'est celui de Marine L'Orphelin. Marine L'Orphelin, Miss France 2013, alors elle est médecin. Elle a pris la semaine dernière sur Instagram, vous allez l'entendre, c'est tout à fait la situation que l'on est en train de vivre à l'hôpital. On écoute Marine L'Orphelin.
Je me rappelle d'un stage particulièrement éprouvant, c'était un stage de chirurgie dans lequel j'étais une des seules femmes, j'étais très jeune, j'avais déjà été élue Miss France et j'ai eu le droit à des dizaines et dizaines de blagues de cul, graveleuses, des questions sur mon intimité, des mains baladeuses et des comportements vraiment inappropriés. Aujourd'hui je regrette un peu de n'avoir rien dit, de n'avoir pas su quoi faire, mais j'étais jeune et c'est vrai qu'on me disait qu'il fallait accepter ces comportements habituels, normaux, attribués à des anciens médecins de l'ancienne génération. Et surtout, il ne faut pas faire de vagues à l'hôpital si tu veux qu'on valide ton stage.
Voilà, l'ex-Miss France, le docteur Marine L'Orphelin sur les violences sexuelles et sexistes qu'elle a donc subies lors de sa formation. Elle dit beaucoup de choses, Marine L'Orphelin, Valérie Auslander. Hein. C'est un témoignage, et ce n'est pas le plus difficile à entendre, hein, parmi des centaines qui tombent ces derniers jours sur les réseaux sociaux.
Oui, alors moi je suis pas étonnée de son témoignage et aussi comme elle était étudiante en médecine et ça m'est arrivé aussi d'entendre quasiment à chaque stage des faits de sexisme, des blagues grivoises, donc je suis absolument pas étonnée de ce qu'elle raconte et c'est vrai que c'est en effet quelque chose qui existe depuis des décennies, un sexisme qui est omniprésent. On en parle depuis peu parce qu'il y a une médiatisation du sujet mais ça fait des décennies que ça existe. Moi j'en parlais dans mon livre en 2017 déjà.
C'est ce que j'allais dire Valérie Auslander, vous avez été parmi les premiers, les premières, dès 2017, à briser l'omerta sur ce climat de maltraitance verbale, physique, psychologique, sexuelle à l'hôpital. Et ça n'avait pas percé le mur du son médiatique. Pourquoi, d'après vous ?
C'est vrai que ça m'a toujours scandalisée. Hein. Depuis le début de mes études, j'avais toujours remarqué ce type de violence et je ne comprenais pas ce que les violences pouvaient faire à l'hôpital. Alors pourquoi ça a pas percé plus que ça? Je pense que malheureusement, il a fallu attendre qu'on médiatise le sujet avec l'affaire récente pour justement justifier de la médiatisation de ce sujet. Mais après, je pense que c'est c'est important d'en parler. Il faut quand même se rendre compte que ça concerne toute l'échelle de la hiérarchie. C'est pas seulement les étudiants, hein, c'est aussi tout type de professionnels de santé. Et tant qu'on banalisera ces violences et qu'on ne luttera pas contre l'impunité, il y aura toujours ce type de violence à l'hôpital.
Alors, l'affaire récente, hein, je vais rappeler, c'est la révélation par Paris Match du nom de celui que l'infectiologue Karine Lacombe hésitait à prononcer, à désigner comme son harceleur, à savoir l'urgentiste Patrick Peloux. Anne Jouan, la journaliste Anne Jouan, à l'origine de ces révélations, était venue nous en parler sur Europe 1. Il fallait des grands noms, finalement, pour que la parole se libère, Valérie Auslander.
Je pense, parce que suite à la sortie de mon livre, il y a eu quand même des actions du gouvernement, notamment contre une lutte contre le harcèlement moral et aussi le sexisme à l'hôpital. Mais finalement, aucune action n'a vraiment été menée. Il y avait eu déjà un dispositif de lutte qui avait été proposé par le docteur Donata Mara. Mais c'est vrai que finalement, en pratique, pas grand-chose avait été mis en place, notamment des points d'écoute dans les hôpitaux, dans les facultés, dans les écoles, la mise en place de médiateurs dans les services, lutter contre l'impunité, condamner les agresseurs, tout ça, ça avait été proposé et finalement, ça n'avait pas été appliqué.
Quand on dit violence sexuelle et sexiste à l'hôpital, est-ce qu'on parle que des femmes, Valérie Auslander, et on est dans quelle proportion, qu'on se fasse une idée de l'ampleur du phénomène ?
Il y a une enquête qui est sortie de l'intersyndicat national des internes qui date aussi de 2017. C'était la première enquête sur le sexisme et harcèlement sexuel dans les études médicales. Cette enquête avait été réalisée auprès de 3000 étudiants en médecine. Ça avait permis de montrer qu'il y avait donc, de confirmer qu'il y avait ce sexisme omniprésent, que 90% des internes étaient témoins de blagues sexistes et que 60% des femmes étaient victimes de sexisme ordinaire versus 8% des hommes. Donc on était à 60% versus 8% des hommes, et 50% des agresseurs étaient des médecins ou des supérieurs hiérarchiques, dont 10% des chefs de service.
Comment on explique en fait l'ampleur de ce phénomène à l'hôpital, de ce harcèlement, je ne vais pas dire institutionnalisé, mais enfin culturel? Comment ça se fait que finalement ça perdure depuis tant d'années, d'après vous, Valérie Auslander? Peut-être à la lumière aussi de votre expérience personnelle de ces situations extrêmement désagréables.
Il y a cet esprit carabin au sein de l'hôpital où on utilise ces blagues sexistes, et finalement ça a été utilisé comme excuse pour justifier des actes de violence sexiste et sexuelle. C'est finalement une porte d'entrée vers ce type d'agression, le fait qu'il y ait cet esprit carabin au sein de l'hôpital.
Oui. Marine L'Orphelin parlait aussi de peur des représailles, hein. Elle disait j'avais peur pour mon stage, pour mon diplôme,
que ça... Oui.
D'être saqué,
justement, j'allais vous dire, il y a le poids de la hiérarchie aussi, avec un abus de pouvoir permanent des personnes qui sont tout en haut de l'échelle de la hiérarchie, et les étudiants comme Marine L'Orphelin ou comme d'autres étudiants, que ce soit des étudiants en médecine, mais pas que, hein, aussi infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, en fait, c'est des personnes qui ont le poids de la validation du stage. Donc, des personnes qui vont se retrouver seules et victimes de chantage sexuel, notamment, s'ils ne se soumettent pas à ces propositions. On pourra pas leur valider le stage. Et moi, j'ai eu dans mon livre des témoignages d'internes, par exemple en médecine, dont une interne qui, si elle ne se soumettait pas aux actes de sexuels demandés par son chef de service, il n'allait pas lui valider sa thèse de doctorat en médecine.
Et ça fait quel médecin, ça, quelques années plus tard, docteur Auslander? Est-ce que, même pour vous, hein, je veux dire, est-ce que ça a eu des conséquences sur votre carrière?
Complètement. Je pense que j'aurais, en tout cas, je me serais posé la question de travailler à l'hôpital ou pas. Clairement, quand j'ai fini mes études, je me suis dit je ne travaillerai jamais à l'hôpital. Je pense que ça a un impact énorme, et que ce soit les témoignages que j'ai recueillis ou d'autres témoignages que j'ai pu entendre après, ou des enquêtes chiffrées même qui ont été faites par les associations des étudiants, qui ont montré un lien direct entre ces violences subies et le fait de vouloir travailler ou non à l'hôpital, ou pour des personnes qui travaillent à l'hôpital d'être complètement dégoûtées de l'hôpital, et sans compter les conséquences sur la santé de ces victimes, la santé psychologique évidemment, mais aussi physique, et aussi sur leur vie vie personnelle et professionnelle. Il faut pas oublier que quand je parle de vie l'impact sur la vie professionnelle, c'est que les victimes collatérales de ce type de violence, ce sont les patients. Parce que les victimes de violences sexistes et sexuelles, quand ils sont professionnels de santé, il va y avoir un état de stress post-traumatique, une anxiété, parfois même des dépressions. Et la réalisation parfois de mauvaises pratiques, ça peut engendrer la réalisation d'erreurs de posologie, par exemple, hein, dans des gestes médicaux, développer une certaine agressivité envers les patients, une perte de sens. Et donc, faut vraiment pas oublier que les victimes collatérales, ce sont les patients.
Merci de votre intervention ce matin sur l'antenne d'Europe 1, docteur Valérie Auslander. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.
Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 7h19.
7h-9h, Europe 1 matin. L'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors Nicolas, nous sommes l'avant-dernier jour du premier trimestre. La plupart des grandes entreprises ont dévoilé leurs résultats du T1, comme on dit T1 comme premier trimestre. Que faut-il en retenir ?
Déjà en Europe et en particulier en France, ces résultats sont plutôt bons. Alors les chiffres d'affaires et les profits se tassent un peu, mais enfin rien de très spectaculaire. Ces résultats des entreprises, c'était un test d'abord pour voir si les grandes entreprises pouvaient protéger leurs profits face à la hausse des coûts de matières premières et face à la hausse des salaires aussi. La réponse est oui. Et puis c'était un test aussi pour voir si le niveau des taux d'intérêt, plus élevé qu'avant, allait affecter le résultat des entreprises. La réponse est non. J'ajoute que les indicateurs conjoncturels de la zone euro montrent que la situation économique s'améliore, donc les chiffres du deuxième trimestre devraient être aussi corrects. Ça veut dire globalement que nos grandes entreprises sont agiles, malgré leur taille. On a l'impression maintenant qu'elles résistent à tout, de la pandémie au choc géopolitique.
Bon, alors regardons maintenant un peu le CAC 40, 40 ouais. Valeurs. Quels sont les résultats d'entreprises qui vous ont le plus frappé ?
Déjà LVMH, le géant du luxe. Si vous regardez la principale division du groupe mode et articles en cuir, elle a réalisé au premier trimestre plus de 10 milliards d'euros de ventes. Wow. C'est colossal, c'est en hausse de 5% sur un an. Une étude Asterès réalisée pour le groupe a montré que les
Attends. Alors on était dans une grenouille géante en fait. Grande de là, au moins tout là-bas. Il y avait des pans, mais des vrais, pas comme les grenouilles géantes. On était dans un jardin déjà, et on volait sur des chaises. Un manège géant, c'était trop bien, trop rapide, trop chouette.
Au jardin d'acclimatation, cultivons l'inattendu. Préparez votre visite. Réservez vos billets sur jardindacclimatation.fr.
Edenred, Dimitri, vous savez, c'est l'entreprise, une entreprise qui commercialise les fameux tickets restaurants, plus 20% pour son chiffre d'affaires au premier trimestre. Écoutez, il y a vraiment de très gros succès économiques en France.
Bon, alors, de bons résultats comme ça, ça veut dire beaucoup de dividendes, mais aussi, on suppose, des rachats d'actions. Il se trouve que le gouvernement va les taxer dès cette année, ces rachats d'actions.
Ouais, c'est un phénomène mal compris. En fait, quand une entreprise ne trouve pas d'opportunité d'investissement rentable, elle utilise son argent pour acheter ses propres actions. Ça permet de redonner de l'argent aux actionnaires qui peuvent l'investir, du coup, dans d'autres entreprises qui se développent davantage, ou par exemple, dans des start-up. Écoutez, ce n'est pas un scandale. Il y a en Europe beaucoup de rachats d'actions, beaucoup de dividendes aussi. Ça enrichit les actionnaires. Mais enfin, je vais vous dire, c'est une bonne chose. Il se trouve que le bonheur des actionnaires n'entre pas en concurrence avec le bonheur des salariés.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Europe 1.
Tous les après-midi sur Europe 1, Christophe Ondelatte vous raconte comme personne des affaires criminelles qui, pour certaines, ont marqué l'histoire de France.
Oui, et aujourd'hui, la semaine commence avec l'affaire du tueur de la pleine lune. C'est l'histoire de Francis Leroy qui ne passe à l'acte que les nuits de pleine lune entre les années 60 et le début des années 80. Ça a presque duré 20 ans. C'était dans la région de Bergerac, en Périgord. Ondelatte raconte, c'est tous les jours de 14h à 15h avec Christophe Ondelatte sur Europe 1.
Allez, bon réveil à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Un mineur de 15 ans en garde à vue à Châteauroux, l'adolescent est soupçonné d'avoir mortellement poignardé un jeune du même âge lors d'une bagarre. L'agresseur d'origine afghane était sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre enquête pour vol aggravé avec violence. La vague MeToo à l'hôpital, le ministre délégué à la Santé convoque une réunion sur les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui en milieu hospitalier. Toute l'échelle de la hiérarchie hospitalière est concernée, estime ce matin sur Europe 1 le médecin généraliste Valérie Auslander. L'État au secours d'Atos. Bercy a déjà fait une offre pour reprendre les activités les plus sensibles du géant français de l'informatique, annonce du ministre de l'économie hier soir. Et puis le football, le PSG sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire à 3 journées de la fin du championnat. Les Parisiens couronnés après la défaite de Monaco, leur dauphin au classement, les Monégasques battus 3-2 par Lyon.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur,
c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Et retour aujourd'hui à travers les archives d'Europe 1 sur l'un des événements majeurs de la fin du XXe siècle. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique explose, libérant un gigantesque nuage radioactif. Moscou, lors d'Autriche, attendra 3 jours, le 29 avril, comme aujourd'hui, il y a donc pile 38 ans, pour en informer le monde.
Oui, ce 29 avril, des hélicoptères jettent du sable, de l'argile, du plomb sur la centrale pour étouffer le feu et absorber les particules radioactives. Le nuage noir de Tchernobyl s'est formé. Première mention de l'explosion de la centrale, ce jour-là, sur Europe 1, avec le correspondant à Moscou.
Cet accident aurait pour conséquence la stérilisation radicale de toute une région et la mort de plusieurs centaines de personnes.
Des spécialistes parlent de 2000 morts en quelques heures sous l'effet des radiations. Mais l'URSS n'annonce officiellement encore que 2 morts. Et à quelques dizaines de kilomètres, des adolescents montent même sur les toits pour admirer le nuage.
Je pensais que c'était l'orage. On a distribué des comprimés de iode par chacun.
Autre témoignage, en descendant du train ce 29 avril 1986, cette Française qui vit à 2 heures de Tchernobyl ne sait pas encore que ce qui vient de se passer n'est autre que la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire.
On ne voyait pas des gens paniquer. Moi, j'ai encore vu des amis soviétiques à la gare hier soir. Je veux dire, ils ne m'ont même pas parlé de ça d'ailleurs. Pour l'instant, les informations sont tellement minimes que personne ne s'inquiète.
Sous l'effet du vent, le nuage radioactif a filé vers le nord. En France, un reportage météo diffusé à la télévision montre sur une carte un panneau avec le mot « stop », laissant entendre qu'un anticyclone ferait barrage au nuage radioactif à la frontière française. Ce scientifique aussi relativise sur Europe 1.
C'est-à-dire que c'est dans l'air ou est-ce que c'est dans l'eau ?
Dans l'air. C'est très, très, très faible pour le moment. Il n'y a pas eu de pluie depuis lundi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour les populations ?
Non, ça va disparaître.
Et à l'étranger, les satellites espions américain perce peu à peu le mur du silence. En France, le premier communiqué officiel ne sera publié qu'une semaine après l'explosion.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cette page d'histoire sur l'antenne d'Europe 1. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour ouf.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Nous sommes lundi, ce qui veut dire que vous avez droit à un nouveau cadeau cette semaine. Et alors, quelle semaine hein ? Europe 1 vous offre chaque matin un cadeau exceptionnel, une carte cadeau d'une valeur de 500 euros valable de 2 ans à dépenser dans les hôtels et restaurants du label Territoria présidé par le grand chef Alain Ducasse, s'il vous plaît. C'est idéal à l'approche des ponts de mai, vous allez pouvoir en famille ou entre amis découvrir la restauration d'Alain Ducasse. Territoria, ce sont 430 établissements premium à taille humaine, une centaine de chefs étoilés pour un séjour ou simplement un déjeuner ou un dîner gastronomique d'exception. Le rendez-vous sur territoria.com, vous allez pouvoir découvrir peut-être votre futur séjour. Et félicitations à Véronique qui habite Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine en région parisienne et qui remporte la croisière Croisi-Europe de la semaine dernière. Direction la Gironde pour vous, Véronique, qui est une fidèle d'Europe 1 Matin et qui écoute Europe 1 depuis l'adolescence, où elle suivait Coluche et Philippe Gildas, entre autres.
Alors, la question du jour pour ce séjour signé Alain Ducasse, dans quel réacteur se produit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ? Était-ce le réacteur numéro 3 ou bien le numéro 4 ?
Pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez Évasion au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et c'est un gagnant par jour cette semaine. Donc allez-y, tentez votre chance. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Manuel Valls sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
L'ancien Premier ministre face à Sonia Mabrouk. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous ce soir de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous ce soir de 19h à 21h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Verisure, la protection adaptée à chacun.
J'aime savoir que ma fille est bien rentrée et que tout va bien à la maison.
Comme tout parent, l'alarme Vérissure vous protège contre les intrusions, les incendies et les accidents domestiques. Nos agents réagissent en quelques secondes et alertent les services d'urgence. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis gratuit. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Avec Sourcing Plus, l'APEC aide les TPE-PME à recruter les profils qui correspondent vraiment à leurs besoins. Plus d'infos dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Le temps à 7h28, Anissa Haddadi. On a un ciel lumineux ce matin au nord et à l'ouest.
Oui, effectivement, c'est là que la journée sera la plus agréable. Sur les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Normandie, les côtes de la Manche, la région parisienne, le centre-Val de Loire, les pays de la Loire. Et cet après-midi, le soleil va même s'étendre jusqu'au Pays Basque, hein, entre la Vendée et le Pays Basque, en passant par la Gironde, le long de la façade atlantique. Il y aura du soleil. Ailleurs, alors si j'ai pas parlé de vous, c'est que ça sera un peu moins lumineux et un peu moins sympathique. Surtout si vous vous trouvez entre les Pyrénées et la Bourgogne, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la région, la vallée du Rhône surtout, et puis le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et l'Hérault, c'est là que les pluies seront les plus importantes. Alors on a une poche pluvieuse sur toutes ces régions tout au long de la journée. Cette poche ne va pas évoluer, elle va pas bouger. Les pluies vont stagner là toute la journée avec, donc je vous le disais, des pluies soutenues sur l'Hérault et les Cévennes. À l'avant de cette perturbation, entre l'Alsace et la Côte d'Azur en passant par les Alpes, le temps est plus calme mais très couvert. Les températures, 12 degrés à Rodez, 13 à Aurillac, 15 à Quimper, Clermont-Ferrand et Biarritz, 17 degrés à Brive et Cherbourg, 18 à Lyon, 19 à Paris et Lille et 26 pour Ajaccio, la maximale.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin,
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Il est 7h30, nous sommes le lundi 29 avril. Bon réveil à vous. À la une ce matin, nos GPS mettent-ils en danger les forces de l'ordre à leur famille? C'est une révélation Europe 1. Des utilisateurs du logiciel Waze identifient, désignent des domiciles de policiers à tous les utilisateurs. C'est une menace directe pour leur sécurité. Explication dans un instant. Policiers et gendarmes mobilisés en masse, vous le savez, pour les Jeux Olympiques. Mais qui se soucie de nous, disent les stations balnéaires. Elles craignent de manquer de bras cet été. Alors certaines villes anticipent, reportage à Palavas-les-Flots dans un instant. Et puis la vague MeToo qui déferle sur l'hôpital. Le ministre délégué à la Santé reçoit ce matin les représentants des professionnels de santé. Au centre des débats, la question des violences sexuelles et sexistes en milieu hospitalier. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des policiers et leurs familles mis en danger par une application GPS. C'est une information Europe 1. Des utilisateurs de l'application Waze, la préférée des Français, ont détourné la fonctionnalité qui permet de signaler les radars pour identifier à la place les domiciles personnels de policiers. Un phénomène importé des États-Unis qui s'appelle le cop-watching ou la surveillance de la police. Une dizaine d'agents seraient concernés, Jean-Baptiste Marty.
Oui, des faits qui remontent à fin mars. Un gendarme réserviste et sa femme rentrent chez eux en voiture, une maison située dans une impasse d'un petit village de 500 habitants. Mais au moment de se garer, stupeur, ils s'aperçoivent sur leur GPS qu'un logo policier s'affiche devant leur domicile, sans mettre plus loin même pastille devant l'habitation d'un voisin quant à lui CRS. Et cette question, qui les a signalés sur cette application accessible de tous? Une aberration pour Reda Bellage du syndicat Unité.
C'est vraiment très très grave. Et aujourd'hui, oui, les policiers ont des craintes. Déjà, à une époque, on ne disait pas à nos enfants de dire qu'on était policier le premier jour d'école. Il faut déjà prendre des mesures par rapport au domicile des collègues qui ont déposé plainte, des mesures de protection, bien sûr, voire de relogement s'ils ne sont pas propriétaires, voire de mutation.
En attendant, les forces de l'ordre concernées ont déposé plainte. Entre 5 et 10 fonctionnaires seraient concernés. Un signalement qui rappelle l'attentat de Magnanville. Un policier et sa femme avaient été tués à leur domicile par des terroristes islamistes.
Jean-Baptiste Marty.
Les policiers et gendarmes qui assureront la sécurité des Jeux Olympiques cet été, mais qui pour veiller sur le reste du pays?
Un exemple, chaque été, il manque entre 4 et 5 000 maîtres nageurs sur nos plages. On appelle donc en renfort des gendarmes sauveteurs, sauf que cet été, la plupart seront affectés dans la capitale. Alors certaines stations balnéaires anticipent, comme à Palavas-les-Flots près de Montpellier, le reportage de Charles L'Huillier pour Europe 1.
En ce début de printemps très frais, ici, les quelques gendarmes déambulent dans des rues quasi vides. D'ici 3 mois, ils seront à Paris. Une première dans cette ville qui accueille 70 000 touristes l'été. Le maire, Christian Jean-Jean, a donc dû s'adapter.
C'est vrai, bon, ça pose un problème. Donc, nous sommes obligés de renforcer. Nous avons souhaité compenser ce manque de renfort. On est passé de 18 policiers municipaux à 32, plus 15 ATPM, des aides des policiers municipaux. Nos policiers sont armés. Moi, je crois qu'on peut leur faire confiance.
Un effort de 300 000 euros pour la ville. Sauf qu'un été sans gendarmes à Palavas, c'est risqué selon cette restauratrice pour qui les policiers municipaux incarnent moins l'autorité.
En début de saison, on a déjà eu des gens qui sont partis du resto sans payer. Il y a des soirs, il y a des jeunes qui se tapent, on se sent en insécurité. Donc les gendarmes, c'est dissuasif.
Moins de gendarmes, mais des policiers nationaux qui, pour compenser, seront plus nombreux dans le département. Le préfet de l'Hérault, exceptionnellement, ne leur a accordé que 2 semaines de vacances cet été. À Palavas, Charles Lhuillier, Europe.
À Châteauroux, une mère et son fils de 15 ans d'origine afghane sont toujours en garde à vue ce matin dans une enquête pour homicide. Soupçonnés d'être impliqués dans l'agression au couteau qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans samedi soir, le parquet évoque, je cite, une bagarre à l'arme blanche. À Marseille, un nouvel homicide sur fond de trafic de drogue samedi soir. Selon le parquet, un jeune homme de 19 ans a été retrouvé mort, blessé par balle à la tête. Quartier de la Belle de Mai, dans le centre-ville, les meurtriers sont toujours en fuite.
Il est 7h34 sur Europe 1. Venons-en à cette vague MeToo qui déferle sur l'hôpital. Le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, reçoit ce matin les représentants des professionnels de santé pour lever le tabou des VSS, les violences sexuelles et sexistes en milieu hospitalier.
Une réunion qui fait suite aux accusations de l'infectiologue Karine Lacombe dans les colonnes de Paris Match au début du mois. Elle visait l'urgentiste Patrick Peloux qu'elle qualifie, je cite, de prédateur. Accusation qui a fait l'effet d'une bombe. Mélanie Gomez, le ministre, le reconnaît. Il y a urgence pour mettre fin à l'omerta.
La culture de l'impunité, c'est terminé. Il y aura une tolérance zéro. C'est le message délivré par Frédéric Valletoux, car il y a urgence. Ces dernières semaines, les témoignages de femmes ayant été victimes de violences sexuelles ou sexistes au sein de l'hôpital affluent, comme celui de Marine L'Orphelin, ancienne Miss France 2013 et désormais médecin généraliste. Sur le média en ligne Brut, elle raconte les violences qu'elle a subies à 22 ans lors d'un stage en chirurgie.
Par rapport à ma tenue, on pouvait me faire des réflexions. Si je me maquillais, on pouvait me faire des réflexions, poser des questions sur mon intimité. À toi, t'aimes telle ou telle position. Enfin voilà, c'était cette ambiance-là vraiment très très désagréable. Les instances de direction, l'ordre des médecins aujourd'hui doit être plus tranchant et retirer la possibilité d'exercer à certains qui vont trop loin.
Alors justement, Frédéric Valletoux a déjà prévu de recevoir début mai les ordres des médecins, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes ou même des pharmaciens. Le ministre ne veut pas jeter la pierre uniquement sur l'hôpital, car dans ce nouveau mouvement MeToo, c'est le système de santé en général qui doit être regardé.
Mélanie Gomez.
Les universités américaines tournent toujours au ralenti, paralysées par des manifestations pro-palestiniennes.
Comme sur le campus de Columbia à New York, où des centaines d'étudiants campent encore au milieu du campus pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt des échanges avec les universités israéliennes. Mobilisation qui a fait des émules en France, on l'a vu vendredi dernier devant les grilles de Sciences Po Paris. À Viva Fried, aux États-Unis, la réponse a été claire, des centaines d'arrestations qui ont permis de montrer que le mouvement a été infiltré.
Oui, ainsi l'université Northeastern à Boston a fait appel à la police, c'est notamment parce que la direction estime que le mouvement étudiant aurait été infiltré par des agitateurs professionnels. En Arizona, à l'université ASU, sur 72 manifestants interpellés samedi, seuls 15 faisaient partie de l'établissement. Et à Los Angeles, le mouvement Black Lives Matter a appelé ses militants à se joindre aux étudiants sur les campus. Autant d'éléments extérieurs qui font craindre une manipulation du mouvement, comme l'explique Eric Adams, le maire démocrate de New York.
Il y a des personnes qui viennent qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui cherchent l'escalade. Il y a quelque chose d'organisé à tout ça. Il y a un effort concentré et bien organisé. Quel est le but ?
Alors justement, l'un des groupes à la manœuvre dans ces manifestations, c'est le SJP, les étudiants pour la justice en Palestine, dont le fondateur a des liens directs avec une organisation qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice de l'État de Virginie pour son soutien présumé au Hamas. Le SJP, qui s'était réjoui ouvertement des massacres du 7 octobre.
Aviv Afrid est sur la situation au Proche-Orient. Le Hamas doit donner sa réponse aujourd'hui sur la nouvelle proposition de trêve portée par l'Égypte. Le groupe terroriste dit n'y voir aucun problème majeur.
Les ponts fond du mois de mai approche à grands pas. Peut-être avez-vous pour projet de prendre l'avion. Eh bien, un nouvel outil facilite la vie des passagers aux aéroports d'Orly et de Roissy.
Un tout nouveau scanner 3D qui ne vous oblige plus à sortir en quatrième vitesse de votre valise l'ordinateur, la tablette ou la console portable des enfants. Une innovation qui est la bienvenue à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Le reportage de Aurélien Fleurot pour Europe 1.
Il faut toujours enlever son manteau, sa montre ou sa ceinture, mais c'est tout.
Si vous avez des produits liquides ou l'ordinateur, vous le gardez dans votre sac. Okay.
C'est le nouveau scanner 3D qui va analyser le contenu des bagages pour le plus grand bonheur de ses passagers.
C'est génial, ça va vraiment beaucoup plus vite.
Ouais, ça change la vie. Parce que nous, en étant filles, on a beaucoup de produits liquides. Parce que là, du coup, on avait tout mis à part, on s'est dit on les sort quand, mais là, bon, au moins on gagne du temps. Nous qui pensions être en retard, au moins on est bien.
30 secondes gagnées par personne, le nombre de fouilles divisé par 3. Ce scanner reprend en partie la technologie utilisé pour analyser les bagages en soute, explique Arthur Wagmacher, en charge de la sûreté à Roissy-Charles de Gaulle.
Nous avons réussi à miniaturiser la technologie pour pouvoir déployer ces nouveaux équipements sur les lignes de bagages de cabine dans les terminaux. Et par ailleurs, la nouvelle technologie scanner 3D permet également de détecter des explosifs, y compris dans les liquides.
Le déploiement sera progressif, 8 scanners à Roissy, 2 à Orly, objectif 40 en 2026 et les 200 lignes de contrôle des aéroports parisiens seront équipées en 2030.
Aurélien Fleurot, Roissy Charles de Gaulle pour Europe 1.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez à suivre l'édito international d'Europe 1 en Italie ce matin où Giorgia Meloni a annoncé ce week-end qu'elle prenait elle-même la tête de liste de son camp pour les européennes. Elle veut faire en Europe, Giorgia Meloni, ce qu'elle a fait en Italie. Le récit de Vincent Hervouet dans un instant.
Bon début de semaine avec Europe 1, il est
7h39. 7h-9h, Europe 1 Matin.
Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant petit-fils.
Bonjour Sonia. Vous avez fait appel à petit-fils voisin le Bretonneux pour votre mère, qui fêtera ses 100 ans cette année. Comment est-ce que Gerline, son auxiliaire de vie, l'accompagne au quotidien?
Alors, du fait de sa stabilité, Gerline a pu faire connaissance avec maman de façon approfondie. C'est-à-dire qu'elle connaît ses petites habitudes, ses besoins, ses fragilités. Donc, il y a un grand respect pour la personne de maman. Donc, Gerline a pris maman en charge le matin pour faire sa toilette, pour l'aider au petit déjeuner, à s'habiller, pour l'occuper intellectuellement. Quant à moi, elle me permet d'être libre d'esprit. Donc, il y a une grande liberté d'être, autant pour maman que pour moi.
À bientôt pour un nouvel instant petit-fils.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ? Ah oui, aussi. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, le club culture d'Europe 1 Matin avec la série documentaire à voir de la semaine recommandée par Héloïse Goy et le livre du jour choisi par Nicolas Carreau. A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les besoins s'envolent, les entreprises peinent à recruter. Virginie Pires, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante à l'APEC. Comment aidez-vous les entreprises à embaucher?
Eh bien, la première étape, c'est de leur faire comprendre que le mouton à cinq pattes n'existe pas. À l'APEC, nous les aidons à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus qui va de la rédaction de l'offre à la présélection des candidats.
Alors Antoine Dezalet-Joly, bonjour. Vous êtes DRH d'Eurogroupe Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et management, et vous avez eu recours au service de l'APEC. Racontez-nous.
Eh bien, nous souhaitions lutter contre les discriminations liées à l'âge et recruter des consultants seniors. Virginie m'a proposé un dispositif d'immersion professionnelle des candidats pendant une semaine pour qu'ils découvrent notre entreprise, notre métier et afin de tester leur aptitude à s'intégrer et à apprendre.
Et vous avez recruté ?
Oui, grâce à cet accompagnement de l'APEC, nous avons embauché 3 talents. Le dispositif a été très pertinent. Nous le poursuivons et en plus, c'est gratuit.
Alors, Virginie, comment fait-on pour rencontrer un consultant de l'APEC ?
Eh bien, il suffit de prendre rendez-vous sur apec.fr.
Merci.
À tous ceux qui appellent un étendoir, un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Bon début de journée, bon début de semaine. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler de Sciences Po, ou plutôt faudrait-il dire Columbia sur scène, en allusion à l'université de Columbia, occupée par les étudiants pro-palestiniens en ce moment. On verra ça avec Alexis Brézet. Mais d'abord, le Club Culture d'Europe 1 Matin, avec, comme chaque lundi, la série de la semaine. Bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vous parle d'une série doc palpitante sur un fait divers qui a marqué la France en 2003. Je vous dis ce que c'est déjà ?
Oui.
C'est l'affaire Flactif.
Le grand Bornand.
C'est ça.
Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour. Un polar drôlatique. Ça s'appelle Papy Mariole.
Tout de suite.
C'est moche, polar drôlatique, mais c'est ça, quoi.
Oui, bah, le titre est sympa, en tout cas. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Bonjour à Myriam. Tiens.
Vincent, surprise en Italie. Giorgia Meloni a annoncé aux militants de son parti, Fratelli d'Italia, quelle serait leur tête de liste pour le scrutin du 9 juin.
Oui, alors, a priori, c'est une drôle d'idée de se présenter à une élection quand on est décidé à ne pas tenir compte du résultat si on est élu. Giorgia Meloni fait comme les étudiants qui passent ce matin le concours de Normale Sup sans avoir l'intention d'enseigner un jour. En France, on n'imagine pas Gabriel Attal ou Emmanuel Macron, tête de liste, l'électeur détesterait ce tour de passe-passe. Eh bien, en Italie, le procédé est banal. Silvio Berlusconi l'a fait alors qu'il était à la tête du gouvernement en 2009. Matteo Renzi, qui lui a succédé, l'a fait aussi 5 ans après. Et à chaque fois, eh bien, la liste ainsi conduite est arrivée en tête. Et le Premier ministre, conforté par ce mini-plébiscite, s'est ensuite désisté. Giorgia Meloni va en faire autant. Fratelli d'Italia, son parti est en tête des sondages à 27%, devant le Parti démocrate à 20%, dont le leader se présente lui aussi, tout comme Antonio Tajani, le chef de Forza Italia, actuel ministre des Affaires étrangères. Aucun d'entre eux n'ira couler à Strasbourg une retraite moelleuse comme un Gewürztraminer, un vendange tardive. L'élection est un test et l'Europe un prétexte.
On voit l'amateur. Vincent, quel est l'enjeu européen pour Giorgia Meloni?
Hier, on l'a vu au congrès de son parti, devant les militants. Elle défendait son bilan, la lutte contre l'immigration clandestine, la défense de la famille et des valeurs chrétiennes, et elle était cheveux au vent avec l'Adriatique qui clapotait en arrière-plan, et on pouvait admirer la mer étale sans un seul bateau chargé de migrants dans le décor. Giorgia Meloni se vante d'avoir réduit de moitié l'immigration illégale et divisé par 10 les arrivées de mineurs non accompagnés. Elle prétend qu'elle a aussi joué un rôle décisif pour que l'Union européenne signe avec la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le bouclage des frontières aux migrants et aux passeurs. Le tout sans jamais faire scandale. À Rome, mieux qu'une réforme tonitruante, eh bien, il y a eu une cascade de décrets-lois et l'immigration a cessé d'obnubiler les esprits. À Bruxelles, pas de porte qui claque, mais une lune de miel avec Ursula von der Leyen qui a rassuré alentour.
Alors ça, c'est particulièrement intéressant. L'entente entre les deux femmes, en effet, n'était pas du tout acquise d'avance.
Quand l'Italie a été élue, l'Allemande a averti « si ça prend une mauvaise direction, nous tenons des outils ». Et avertissement inutile, Giorgia Meloni a tout de suite donné des gages. Sur le budget, elle a emprunté son ministre des Finances à l'équipe de Mario Draghi. Et sur l'Ukraine, elle est plus va-t-en-guerre et atlantiste que Joe Biden lui-même. La dot pour ce mariage de raison avec Ursula von der Leyen, ce sont les 193 milliards d'euros du fonds post-Covid que l'Italie s'apprête à toucher. Et comme voyage de noces, eh bien les deux dirigeantes sont allées ensemble en Tunisie, à Lampedusa, à Rome, en Égypte le mois dernier, avec Christine Lagarde et Kamala Harris. Voilà le quartet gagnant des femmes qui comptent le plus dans le monde, selon le classement de Forbes. C'est un brevet de respectabilité absolue pour la Mélanie.
Et elle parvient, en plus de cela, à conserver le soutien de sa base la plus radicale, sans braquer la Commission.
Oui, elle prétend faire en Europe ce qu'elle a réussi en Italie, l'Union des droites, le groupe des conservateurs et réformistes européens, auquel Fratelli d'Italia appartient, se conduit comme une sorte de parti charnière, apportant son soutien aux centristes qui dominent pourtant l'hémicycle pour gagner en influence et éviter d'être marginalisé. Ursula von der Leyen n'étant pas sûre d'être reconduite comme impératrice d'Europe, elle aura besoin du vote de ses conservateurs. Et dans le tandem, c'est Meloni qui tient désormais le guidon, les outils, pour ne pas dire la culotte.
Merci Vincent Hervouette, signature Europe. Il est 7h47.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Nicolas Carreau, le livre du jour en ce lundi, un polar, donc, mais plutôt drôlatique, comme vous nous avez dit.
Oui, ce qui n'empêche pas la profondeur, au contraire même. Ça s'appelle Papy Mariol, c'est chez Albin Michel, signé Benoît Philippon. Regardez la couverture, c'est lui, Papy Mariol, un vieux monsieur en peignoir avec dans son dos une carabine mal dissimulée.
C'est donc le héros du livre, hein ?
Oui, mais j'y reviens. Ça commence avec Mathilde, pour l'instant une jeune femme. C'est pas la joie, lèvres fendues, dépenaillées, l'air hagard, elle marche sur le bord de l'autoroute, pieds nus, le souffle court. Elle a été victime de revenge porn, ça je peux vous le dire. Un camion vient de la frôler, ça commence à être très très dangereux. Elle voit un pont un peu plus loin et elle s'y dirige. Chapitre 2. Hagard aussi, voilà Mariol, donc c'est son nom, son surnom plutôt. 77 ans, ancien tueur à gages à la retraite forcée pour cause d'Alzheimer. Il était dans un EHPAD, mais quand on le rencontre, il est en peignoir, les mains dans les poches sur les boulevards des Maréchaux à Paris. Il a quelques flashs de lucidité. C'est le cas là maintenant, il se demande bien ce qu'il fait là. C'est ce que lui demandent aussi les pompiers qui ont été appelés par des passants. Réponse: ça se voit pas, je vais en thalasso, leur répond-il.
Et il est pas commode, le Mariol, là. Hein.
Il en a marre de ne plus savoir qui il est. C'était quelqu'un dans le métier, Mariol. Du panache, de la dextérité, des faux airs de Jean Rochefort, dit-on. Et soudain, il se souvient, il n'a pas terminé le dernier contrat. C'était ça ce qu'il taraudait. Eh bien, il va s'en occuper, coûte que coûte, seul problème. Mais de taille, il ne sait plus du tout, qui est la cible. Vous allez me dire, quel rapport avec Mathilde ? Les deux vont se rencontrer, et miracle, les deux peuvent être bien utiles l'un à l'autre. La vengeance est en route. C'est drôle, oui, mais pas seulement, c'est pas du comique lourdeau, ça va loin. C'est délicat, intelligent, mais surtout, ça sonne juste.
La Papy Mariol, signé Benoît Philippon, c'est chez Albin Michel. Merci Nicolas Carreau. La série de la semaine à présent, Héloïse Gouin. Alors c'est plutôt une série documentaire que vous nous recommandez cette semaine.
Une série qui plaira, j'en suis sûre, aux adeptes de Christophe Ondelat dans Ondelat raconte, puisque cet excellent documentaire décortique l'un des faits divers les plus marquants des années 2000.
Une famille du Grand Bornand activement recherchée en Haute-Savoie.
On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De cinq à la fois, c'est tout à fait exceptionnel.
L'enquêteur n'écarte pour l'instant aucune hypothèse.
L'affaire du Grand Bornand ou l'affaire Flactif. En avril 2003, Xavier Flactif, son épouse et leurs trois enfants disparaissent sans laisser trace. Dans le chalet savoyard de la famille, à première vue, rien n'a bougé. Mais quelques semaines plus tard, les policiers découvrent l'horreur.
Le plus effrayant, c'était des morceaux de dandelée dans les rails du plancher de la cuisine.
Il ne fait plus de doute dans notre esprit qu'on a affaire à 5 meurtres.
20 ans après les faits, le documentaire intitulé « L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière » revient sur ce quintuple homicide qui a tenu en haleine la France entière pendant de longs mois d'enquête.
Alors comment la série raconte-t-elle cette histoire terrible, hein ?
Les 4 épisodes de 50 minutes retracent très précisément et chronologiquement cette investigation complexe qui a finalement permis de mener au coupable. Les témoignages sont puissants et émouvants. On entend notamment le beau-fils de Xavier, le fils de Gradiella, qui devait passer ses vacances dans le chalet au moment de la disparition. C'est lui qui donne l'alerte en premier. Et puis le doc se sert de beaucoup d'images d'archives, des interviews de voisins diffusées à la télé à l'époque. Ces témoignages se révèlent particulièrement glaçants quand on connaît l'identité du criminel que vous entendez ici.
Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Ouais, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on ne sait pas.
C'est ça. Là,
c'est incroyable ce témoignage.
Un extrait de 7 à 8 sur TF1. Et c'est donc le coupable, David.
Il se présente comme un voisin.
Ouais. Et il adorait parler aux caméras des journalistes. C'est vraiment
glaçant. Il était sur
toutes
les interviews, t'es partout. Ouais.
Absolument. Les autres témoignages sont des sources proches de l'enquête qui interrogent la place des médias et des rumeurs urbaines dans l'avancement de l'investigation. Voilà, à la hauteur de cette terrible affaire qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, cette série doc se regarde comme un thriller haletant, fascinant et bouleversant.
Alors, l'affaire Flactif, une jalousie meurtrière, série documentaire donc à retrouver en intégralité sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Gouin, merci les amis, merci Vincent, merci Nicolas. On se retrouve demain dans un instant, votre édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brezet, juste après le journal permanent. Nina Pavan.
Châteauroux toujours sous le choc ce matin après la mort samedi soir d'un adolescent de 15 ans poignardé par un jeune du même âge, connu des services de police. D'origine afghane, il est toujours en garde à vue ce matin avec sa mère, soupçonnée d'être impliquée dans l'attaque. À Marseille, un nouvel homicide sur fond de trafic de drogue. Samedi soir, un jeune homme de 19 ans retrouvé une balle dans la tête, quartier de la Belle de Mai dans le centre-ville. Les meurtriers sont toujours en fuite. À Mayotte, 26 cas de choléra désormais, des cas endogènes après l'importation de la maladie par des migrants arrivés des Comores. Une deuxième unité spécialisée est ouverte dans le département pour tenter de contenir le risque de propagation. Et puis le PSG champion de France après la défaite de Monaco 3-2 hier soir face à Lyon lors de la 31e journée. Les Parisiens concentrés sur la Ligue des champions désormais, demi-finale aller contre Dortmund mercredi soir.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brazet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez ce matin Alexis sur l'accord conclu vendredi soir entre la direction de Sciences Po et les étudiants pro-Hamas qui occupaient l'école. Alors ce deal a permis l'évacuation des locaux, mais il a un peu de mal à passer Alexis. Hein,
bah oui Dimitri, parce qu'en vérité, ça n'est pas un accord. C'est une reddition sans condition, une honteuse capitulation. Enfin, depuis des semaines, des étudiants fanatisés font régner leur terreur idéologique et physique dans l'enceinte de Sciences Po. Sous couvert d'antisionisme, ils proclament leur soutien au Hamas et affichent sans vergogne un antisémitisme décomplexé. On ne le dit pas toujours, mais vous savez, les mains rougies qu'ils brandissent triomphalement sont une référence directe et ignoble au geste de victoire des bourreaux de deux soldats israéliens massacrés à Ramallah pendant la seconde intifada. C'est pas du tout un geste de paix. Et donc, pour obtenir de ces extrémistes qu'ils cessent leur blocage illégal, la direction de l'école a annoncé qu'elle cédait à toutes leurs revendications. Non seulement elle s'est engagée à renoncer à la moindre poursuite disciplinaire contre les meneurs, mais elle a en outre accepté la tenue d'un town hall, en bon français une AG réunissant étudiants et direction, pour discuter, je cite, des partenariats de l'école avec les universités ou les organisations soutenant l'État d'Israël. En clair, il s'agit d'organiser depuis Sciences Po le boycott du seul État démocratique de la région. Bon, avec ça, on a déjà un sommet de lâcheté. Mais attendez, c'est pas tout. On n'est pas encore au bout du naufrage, puisque, tenez-vous bien, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, l'autorité de tutelle de Sciences Po, a officiellement félicité la direction pour avoir rétabli le calme rue Saint-Guillaume. Aux États-Unis, les directrices de l'université de Penn ou de celle de Harvard doivent démissionner. En France, le directeur par intérim de Sciences Po est félicité par le gouvernement.
Alors Gabriel Attal ne semble pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On a lui a dénoncé les dérives d'une minorité agissante et dangereuse.
Ah oui, ça pour dénoncer, il a dénoncé. Il a même ajouté, Martial, nous ne transigerons pas jamais sur le respect de la loi et des valeurs de la République. Bon. Le problème, c'est qu'il y a un mois déjà, il était allé à Sciences Po pour dire à peu près la même chose, et puis on a vu la suite. La vérité, Dimitri, c'est qu'il ne se passera rien tant qu'on fera semblant de croire que ce qui arrive à Sciences Po est le fruit du hasard, que c'est par l'opération du Saint-Esprit que cette école est devenue le temple du wokisme, la Mecque de l'islamo-gauchisme. Il y a près de 30 ans, Richard Descoings, nommé avec l'accord d'Alain Juppé, a décidé de transformer méthodiquement une école censée former une certaine élite intellectuelle à la française, avec ses qualités et ses défauts, je le sais bien, j'en viens. Il a décidé de la transformer en une université internationale destinée à produire l'avant-garde du progressisme et de l'inclusivité. Donc, on a changé les enseignements en injectant partout des études de genre et des post-colonial studies. On a changé les procédures d'admission en supprimant les oraux qu'on a jugés trop bourgeois, puis les écrits qu'on a jugés trop élitistes, pour se contenter finalement du dossier de chaque élève censé refléter l'originalité de son parcours. Surtout ne pas sortir d'un lycée d'excellence. On a multiplié les campus, décuplé le nombre d'élèves qu'on est allé chercher à l'étranger, mis partout de la discrimination positive pour les enfants des quartiers défavorisés, puis de la discrimination négative envers ceux des beaux quartiers. Bref, on a tout détruit pierre après pierre, et aujourd'hui, les mêmes qui ont encensé l'œuvre modernisatrice de Richard Descoings, eh ben cela s'étonne que la rue Saint-Guillaume soit devenue la fabrique du crétin mélenchoniste.
Est-ce que l'on pouvait le prévoir, ça, Alexis ?
Ben évidemment. Richard Descoings et ses successeurs nous l'ont dit, ils nous ont prévenus, et ils ont choisi de faire de Sciences Po une grande université à l'américaine. Eh bien, ils ont presque parfaitement réussi. Sciences Po a tous les défauts d'une université américaine, mais pas ses qualités.
L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brazet. Et à la une du Figaro ce matin, Sciences Po qui s'incline face à la pression islamo-gauchiste. Grand entretien également, je le signale, en page intérieure avec Alain Finkielkraut de retour d'Israël, ce qu'il y a vu, ce qu'il y a entendu. Merci beaucoup Alexis, à demain.
Il est 7h56, merci d'écouter Europe 1. Bonne rentrée aux élèves de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Vous écoutez Europe 1 matin, nous sommes le lundi 29 avril.
Et nous fêtons ce jour Sainte-Catherine de Sienne qui vécut au 14e siècle.
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Vous écoutez Europe 1 Matin, nous sommes le lundi 29 avril.
Et nous fêtons ce jour Sainte-Catherine de Sienne qui vécut au 14e siècle. Benjamin d'une famille de 24 frères et sœurs. Catherine, une vision du Christ à l'âge de 6 ans, docteur de l'Église, elle est copatronne de l'Europe. Bon réveil avec Europe 1. Ne manquez pas la revue de presse d'Olivier Delagarde tout à l'heure. On parlera d'Amélie Nothomb, fan du Hellfest, figurez-vous. Avec Emmanuel Ducrot, on parlera des Verts allemands pris la main dans le sac d'une grosse manipulation anti-nucléaire. Dans un quart d'heure, face à Sonia Mabrouk, l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Bonjour, c'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette 6e étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons demain à Anglette, près de Bayonne. J'accueillerai 3 start-up locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors rendez-vous demain, nouvel horaire, la France bouge, 21h, 22h sur Europe 1.
À l'écoute des entreprises avec AXA Prévention. AXA Prévention accompagne les entreprises face aux risques routiers. À mes côtés, la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie nationale, et Éric Lemaire, président d'AXA Prévention. Éric Lemaire, on emmène souvent ces problèmes au volant. Est-ce que ça peut être dangereux?
Bien sûr. Selon notre baromètre 2023, 81% des conducteurs de trajets professionnels affirment que le contexte de crise actuel impacte leur morale et 45% déclarent que cela influence leur comportement sur la route.
Marie-Laure Pesant, en quoi cela représente-t-il un danger ?
Eh bien, l'état psychologique des personnes a des conséquences directes sur leur comportement quotidien. On est moins attentif, plus préoccupé, plus nerveux. Sur la route, ça augmente les tensions, les incivilités routières et donc le risque d'accident.
Oui. Éric Lemaire, comment prévenir ce risque ?
AXA Prévention propose gratuitement des formations au premier secours en santé mentale que l'on retrouve sur axaprévention.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises ondes ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué.
En barquette patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7h, 9h, Europe 1 Matin.
Bientôt 8h sur Europe 1. Anissa Dadi, la météo. Attention aux pluies très très fortes sur les Cévennes. On parle d'un événement Cévenol. Il y en a eu combien cette année?
Il y a eu un événement Cévenol ce week-end qui se poursuit. Oui, effectivement, aujourd'hui. Oui, c'est le 7e ou 8e de la saison, c'est vrai. Et on a des pluies très abondantes aujourd'hui entre les Pyrénées et l'Auvergne, en passant par le Languedoc-Roussillon et les